De bande dessinée sur Radio Campus, la radio de la communauté de l'Université libre de Bruxelles. Alors aujourd'hui, c'est une émission spéciale. Normalement, Radio Grand Papier, c'est le mercredi, mais c'est une carte blanche. Et pourquoi on a une carte blanche aujourd'hui ? Parce que c'est la 5e édition de Culture Maison, le festival de bande dessinée contemporaine qui a lieu tous les ans à Bruxelles. On en profite pour remercier tout de suite Radio Alma qui nous accueille dans ses locaux, ce qui fait qu'on est juste en dessous des stands de tous les éditeurs. Sur le site même de Culture Maison, donc on remercie Radio Alma et plus précisément David Martinez, et puis on remercie une partie du staff de Radio Campus qui assure la retransmission directe, donc c'est Gérald Wong et Frédéric Collignon. Voilà, alors un petit mot sur Culture Maison pour les gens qui ne connaissent pas, parce que vous avez jusqu'à demain soir 22h pour venir voir un petit peu qu'est-ce que c'est ce festival. Alors c'est gratuit, ça se trouve tout près de la gare du Midi, donc c'est 120 rue de Belgrade à Saint-Gilles. On trouve une cinquantaine de maisons d'édition qui proposent de la bande dessinée, du fanzine, de la sérigraphie. Mais il y a aussi plusieurs expositions et un grand espace est consacré à la maison d'édition Brice. Mais ça, on va en reparler plus tard puisque nous avons des personnes ici invitées pour en parler. On trouve le travail d'illustration d'Elzo Dirt et on trouve aussi une exposition de Ziochi Kuchi autour de leur livre jeunesse tout en gravure Détective Roll Mops. Et puis une grande fresque de Label Production qui habille une partie des lieux. Et enfin, il y a une exposition qui regroupe différents auteurs sous le nom de Ribambelle, qui est menée par Loïc Gaume. Et ça, on en parlera en deuxième partie d'émission. Et pour terminer, l'équipe vous aura fait une petite sélection de ce qu'on peut faire comme trouvaille dans ce festival. Voilà, parce qu'on trouve des choses évidemment qu'on ne trouve pas nécessairement en librairie. Alors on va commencer avec des gens de la maison d'édition Brice. Donc je l'ai dit, il y a une grande exposition, un grand espace qui leur est consacré. Il y a énormément d'originaux issus des publications de cette maison d'édition. On accueille Ria Sculpen. Bonjour.
Bonjour.
Yann Paulet.
Bonjour.
Éditeur vidéo.
Bonjour.
Voilà, et donc vous allez nous parler un petit peu de tout ça et je passe la parole à Stéphane.
Oui, alors je suis très content de voir Ria puisque il y a quelque chose comme 20 ans, un peu moins peut-être. Elle m'avait invité à Anvers à l'époque où je faisais un fanzine pourri qui s'appelait Collective. Et je m'étais retrouvé dans un petit studio là-bas, invité. Et c'était Ria qui tenait le micro et qui me faisait parler. Et cette fois-ci, c'est la chose inverse qui se passe. Donc c'est magnifique comme la roue tourne. Je suis content de la recevoir parce que quand même, Brice, c'est une maison d'édition qui a, avec le temps, pris vraiment de l'épaisseur et assez intéressante. Alors, Pour revenir en 94, 95, 96, dans ces eaux-là, à l'époque où toi tu fais de la radio, et donc qu'est-ce qui a fait qu'on est passé de... Pourquoi tu faisais de la radio, notamment autour de la bande dessinée à l'époque, et qu'est-ce qui s'est passé depuis qui t'a amené à avoir maintenant une exposition dans un festival comme celui-ci ?
Oui, beaucoup de questions. Alors, j'avais commencé... Je me suis tombée dans la BD quand j'avais 21 ans à peu près. Et j'ai oublié une bibliothèque de BD. Et c'était dans les années... c'était 85, je pense.
Ah ouais.
Et alors... OK. J'avais acheté beaucoup de BD et pour remplir la bibliothèque. Je dois ajouter qu'à ce temps-là, cette époque, dans la bibliothèque, les bibliothèques municipales, il n'y avait pas de BD. Et c'est moi, comme fan de BD, que j'avais décidé de commencer une... d'ouvrir une bibliothèque privée pour BD, avec BD. Et alors, après quelques années, quand nous nous avons rencontrés, c'était il y avait quelqu'un, un jeune homme encore, Denis Tiffus, et il faisait la radio chez Radio Centrale à Anvers. Il avait besoin de quelqu'un pour lui aider, pour faire le programme. Il était encore très jeune, je pense 14 ans.
Oh,
wow. Oui. Et alors, il m'est venu visiter et m'a demandé si je veux faire des émissions avec lui sur la BD. Et moi, j'ai dit oui, sans penser, sans y réfléchir. C'est comme j'ai fait tout jusqu'à présent. J'y vais et je ne réfléchis pas trop. Alors, quand nous, Stéphane, nous avons rencontrés, j'étais effectivement en train de faire des émissions de BD. J'ai fait ça pendant 2 ans, je pense. Et après, c'était trop. C'était avec mon travail, parce que j'ai eu toujours du travail à côté de la bibliothèque de BD ou maintenant comme éditrice. Je pense que quelques années après nous avons rencontré, j'avais envie de commencer à publier. Et quand j'allais au festival de BD à l'étranger, j'ai rencontré beaucoup de dessinateurs alternatifs avec leur small press livre. Et alors je leur ai invité de faire quelque chose ensemble, de publier de bouquins, de vrais bouquins. Et alors, j'ai fait ça depuis 15 ans maintenant. Et en cours de la route, mon intérêt a changé un peu. Au début, c'était de BD un peu plus mainstream, comme Dickie. Et aussi de jusqu'au c'est le spectre de assez mainstream vers plutôt ce que Frémok fait avec par exemple Anke Feuchtenberger ou Stefano Ricci, c'est surtout les dernières années que j'ai choisi de faire des BD plus artistiques. C'est peut-être un peu c'est pas la bonne expression, mais ça si je m'entends dire ça, c'est un peu arty-farty, mais je ne vais pas dire ça.
Est-ce qu'il y a un mot en flamand qui est plus correct pour dire ça?
Non, c'est ça. Non, ton livre n'est pas arty-farty. Ok, non, mais des livres, des projets qui c'est dur pour expliquer.
C'est simplement dire qu'ils sont plus pénétrés par à la fois la littérature, l'illustration.
Oui, c'est ça. Le mélange des BD qui traversent les lois classiques de la BD et où il y a un échange entre les différentes arts, comme en effet poésie quand même. Oui.
Ça fait penser du coup à la planche de Bert van der Broek avec cette image où finalement le personnage se fait son propre passage, puisqu'il y a une porte art et une porte bande dessinée, puis il finit par traverser le mur pour pouvoir passer entre les deux. Peut-être un peu ça.
Oui, c'est l'illustration parfaite pour ce que je veux faire. Ouais.
C'est Absolument. D'ailleurs, cette planche de Brick van den Broek se trouve dans l'exposition ici. Donc, on peut la voir en original, une petite gouache assez, assez jolie. D'ailleurs, toi, Yann, le livre que tu es en train de sortir exactement maintenant, ouais. qui s'appelle Au scénario, est un livre qui est très citationnel du milieu de l'art. On y trouve Andy Warhol, qui parle à Marcel Duchamp. On y trouve toutes sortes de choses comme ça qui sont vraiment qui parlent de l'art, mais depuis quelque chose qui est une bande dessinée assez rustique, noir et blanc, sur un plastique gratté, donc quelque chose d'un peu rugueux, mais dans lesquels on a une approche qui est très très citationnelle. Je ne connaissais pas ton boulot avant, j'ai vu ici dans l'exposition quelques planches qui sont faites aussi avec ton frère, je pense, et qui étaient...
Oui, mais pour être clair, moi je ne suis pas dessinateur, donc je ne suis pas du tout capable de faire un dessin. Donc c'est plutôt mon frère qui fait les dessins, qui est peintre d'ailleurs. Moi je viens plutôt du monde de la littérature, j'écris de la poésie, j'ai déjà publié des livres. Mais comme vous venez de le dire, le livre est vraiment plein de citations vers des personnages connus. Il y a beaucoup de quotes. Des personnes, des artistes, des scientifiques, des écrivains, des poètes. Et en réalité, en fait, l'histoire au scénario, en fait, est construite comme une labyrinthe. Voilà aussi la raison pourquoi on a construit une labyrinthe ici dans l'exposition. Bon, comme Ria vient de dire, ne faites pas des éditions courantes, des histoires courantes. Au scénario, non plus, est une histoire de A à Z, un récit linéaire, c'est plutôt un récit labyrinthique qui s'approche du cœur de l'histoire et qui s'éloigne tout le temps, parfois à la frustration du lecteur ou de l'éditrice. Mais allez, ça symbolise en fait pour moi l'itinéraire que chacun de nous doit faire dans la vie, c'est qu'on va vers un but, mais peut-être un but qu'on n'aime pas trop atteindre. Et alors on y va et on s'éloigne de ça. Et pour moi, en deuxième lieu, c'est aussi ça symbolise aussi l'itinéraire de la création. Donc la vie ou la création, pour moi, c'est deux choses égales, c'est la même chose. Et aussi dans la création, on a ce moment où on va vers un but, et puis il y a des moments où on a vraiment peur de l'atteindre, parce qu'on a peur de l'échec, en fait. Et voici les raisons pourquoi il y a tout ce mélange, et en fait que je fais beaucoup de références à des arts et des personnages dans le monde artistique. Voilà.
Ok. Pour revenir à toi, Ria, donc tu as, au bout du compte, là, maintenant, on voit dans ton catalogue beaucoup de gens qui sont vraiment ce qui se fait de mieux. En tout cas, tout ce qu'on connaît dans la bande dessinée flamande contemporaine. En effet, on a des gens comme Brick van den Broek, qui est quand même une star, Schrauen, qui est un incroyable dessinateur, et plus plein d'autres qui sont ici en studio, vidéo, etc. Comment est-ce que tu fais pour rencontrer ces gens? Est-ce que c'est ton travail de bibliothécaire, de libraire qui t'a amené à rencontrer ces gens-là? C'est la maison d'édition? C'est quoi la méthode?
Non, pas du tout. Ça dépend du dessinateur. Par exemple, Dieter, c'est lui qui m'a approché, et parce qu'il connaît les éditions de Brice, ouais. Et il a pensé que Brice était la maison d'édition pour ce livre. Aussi, dans le cas de Yann et Piet Paulette, ce sont eux qui sont venus chez moi avec le projet, mais je dois dire que le projet initial, c'était totalement différent.
Ça a l'air d'une excuse.
Non, parce que, en fait, ça pourrait être intéressant si on puisse montrer aux lecteurs au scénario d'où on vient. Mm-hmm. Mais ils ont travaillé depuis 2-3 ans. Oui. À ce projet? Oui, ok.
Mais en fait, nous, on est venu chez Ria avec un projet tout à fait différent, qui était écrit en français d'ailleurs.
Aussi, oui.
Et c'était sur un chien savant qui aussi un peu philosophe comme ça. vacances. On était parti d'une vacance au Condro, en Belgique, où on a vécu 2 semaines sur une ferme où il y avait un chien qui s'appelait Touffe et qui était vraiment un chien qui avait une sagesse. Et on s'attendait toujours à qu'il allait commencer à parler, quoi, tellement qu'il était brillant. Et alors, mon frère et moi, on a fait une histoire là-dessus, et c'est ce qu'on avait montré à Ria. Et Ria était d'accord pour faire ça, mais il fallait le traduire en irlandais. Et là, ça a donné des problèmes, en fait. Nous, on n'a plus senti l'histoire dans la langue.
Il y avait aussi beaucoup de jeux de mots.
Oui, oui.
Ouais. En français.
Oui. Ouais. Et aussi, mon frère, il perdait un peu l'atmosphère de l'histoire. Donc, voilà, on a abandonné, on est revenu avec toute autre chose. Oui. À la surprise de Ria.
Mais pour continuer,
oui.
C'est moi qui a demandé à Brecht il y a 2-3 ans que j'étais, je lui ai dit que j'étais intéressée pour publier un livre de lui. Et il
tu l'avais rencontré comment, dans un festival?
Non, dans The Breeze Space. Ça, c'est une autre chose que j'avais commencé il y a 4-5 ans, je pense, le début de 2000, c'était 2011 ou 2012. C'est parce que j'ai commencé The Breeze Space parce que je n'avais plus
de lieu.
Un espace, oui, de lieu pour montrer les trucs que je fais avec la maison d'édition. Et alors, avec un ami, nous avons commencé The Breeze Space, une petite galerie à Anvers, où nous montrons... en fait, c'est l'art plastique, mais en réalité, c'est plutôt l'illustration, le graphique et parfois aussi de la peinture. Alors, c'est là que j'avais rencontré Brecht, oui. Et si je réfléchis sur ton question, je pense que c'est la moitié des artistes que dont je publie leur BD, c'est moi qui ai approché eux. Et 50% c'est des artistes. Ouais. Et je voulais acheter quelque chose, mais j'avais déjà oublié.
Ça reviendra. Ouais. Moi, je voulais dire, on vient de parler de la traduction. Il faut quand même spécifier que il y a quelque chose d'assez engagé dans la manière, enfin, qui me semble engagé dans la manière que tu publies. Tu publies des bouquins en flamand. Et donc, ce qui veut dire que c'est un marché qui est plus restreint que celui de la publication française, où on sait que beaucoup d'auteurs publient en flamand, ont tendance à publier en anglais. Moi, j'ai vu des choses de Paulet qui sont traduites, enfin, qui sont directement en anglais. Mais toi, tu fais le choix tu aurais pu prendre l'anglais, comme beaucoup de gens en rock, etc., du côté flamand, choisissent le français ou l'anglais comme débouché. Et donc, pour toi, est-ce que c'est quelque chose qui est une forme de revendication, une forme de nécessité pour avoir un marché t'adresser à cette moitié du pays hyper importante qu'est la Flandre aujourd'hui? C'était quoi le but?
C'est partiellement parce que j'aime en fait éditer la BD dans ma langue, propre langue. Mais d'autre part, il y a aussi la raison pourquoi je publiais en néerlandais, c'est que je ne peux avoir de l'aide de la Fondation Flamand de la littérature si on publie en néerlandais. C'est une
raison pragmatique.
Une condition, oui. Au début, pas vraiment. C'est pourquoi que j'ai eu faire la première édition de My Boy en anglais. Mais après, ils m'ont dit, non, à partir de maintenant, il faut le faire en néerlandais. Et je pense que c'est le mieux, parce que, si je le fais en anglais, si je publie les BD en anglais, je peux les vendre à l'étranger, c'est vrai. mais je n'ai pas les miens, les possibilités, les moyens, ouais, pour faire de la promotion ou pour faire une
un suivi simplement.
Ouais. Et oui, ça c'est. Alors c'est mieux de trouver une maison d'édition étrangère pour faire une traduction.
C'est ça, et tout
que je dois ça moi-même. Oui.
D'accord.
Aussi, comme Yann l'avait soulevé, est-ce qu'il y a peut-être un. Je ne sais pas dans quelle langue créent la plupart des auteurs comme Brecht, Van der Broek. Mais peut-être qu'il y a un intérêt particulier aussi à ce que ce soit cette langue-là. Parce que comme tu disais, quand on passe d'une langue à l'autre, on perd. Il y a des choses qu'on ne peut plus dire de la même manière. Donc peut-être qu'il y a un intérêt aussi à éditer la bande dessinée dans sa langue maternelle.
C'est difficile à dire, je trouve. C'est vrai qu'on se sent plus à l'aise dans sa propre langue. Mais moi, par exemple, les petits trucs qu'on a fait en anglais, bon, c'est minimal, mais ça ne me bloque pas d'aller vers une autre langue. Mm-hmm. Mais je crois que pour Ria, c'était vraiment le fait qu'elle n'avait pas les moyens de distribution non plus, que le français n'était pas à l'ordre du jour. Voilà.
Okay. On assiste là, depuis quelques années, on l'a vu à Angoulême notamment avec Brecht Evans qui a gagné un prix, etc. Il y a une jeune bande dessinée flamande qui est très active et avec une approche qui est en effet, comme tu le disais, assez portée à la lisière entre la bande dessinée et les arts. Et en même temps, moi je trouve assez en connexion avec une bande dessinée, on pourrait dire, traditionnelle flamande, donc dans laquelle il y a beaucoup de grotesques et de choses comme ça, des personnages un peu laids, enfin, quelque chose qui a à voir avec une beauté complètement étrange. Est-ce que tu as une explication sur le fait que cette jeune génération produit maintenant des choses aussi bonne qualité? Qu'est-ce qui fait qu'on a une si bonne bande dessinée flamande?
Est-ce que tu peux répéter la dernière phrase?
La dernière phrase, c'est comment ça se fait qu'il y a une tellement bonne bande dessinée flamande dans la jeune génération?
Okay. Je pense que on a eu une génération avec Schrauben, Evans, Pieter de Porteren, et avec l'aide de het Vlaams Fonds. Voor letterkunde, literatuur. Vlaams Fonds voor de
letterkunde.
Letterkunde. Ja. quelque chose a commencé à bouger et c'est comment dire
c'est évolué.
Généré.
Un cercle vertueux.
Voilà, ils ont ouvert des portes.
Non, alors, je ne sais quand même pas expliquer en irlandais.
Elle fait un geste rotatif de la main à l'horizontale, qui veut dire que ça essaimé, que ça, on essaie de trouver le bon mot.
C'est, je dis ça en irlandais. Het ene versterkt het andere. Het is een uitwisseling.
C'est un échange en fait. Oui. Donc un bon dessinateur déclenche un autre.
Oui, oui. C'est comme dans le tennis. Hein? Ouais. On a deux joueurs comme.
Le terme français est émulation.
Ouais. Émulation. Okay. Voilà.
Ouais. Une émulation de la jeune génération. Ouais. Est-ce qu'il y a des écoles, parce que c'est une approche de l'art qui est, enfin, de la bande dessinée qui est très proche de l'art, est-ce qu'il y a des écoles en Flandre d'où sont issus beaucoup de jeunes auteurs, ou est-ce qu'il y a des endroits où ils peuvent se voir? Comment, où se passe cette émulation?
Justement, je crois que les académies ont quand même aussi beaucoup plus des profs qui sont spécialisés dans la bande dessinée ou l'illustration. Et donc, je crois que là aussi, il y a un niveau qui est plus élevé qu'avant, je suppose.
Une considération pour la bande dessinée comme étant de l'art aussi, ou ça reste difficile?
Ça, je ne sais pas, en fait.
Est-ce qu'il y a un... Parce que depuis les années 90, en France, en Belgique, il y a eu la génération des indépendants qui a d'un seul coup apporté, avec le roman graphique, une forme de considération un peu plus aboutie, avec quelques prix un peu notables. On a souvent cité Maus de Art Spiegelman, qui gagne d'un seul coup un prix qui n'a plus rien à voir avec la bande dessinée, mais un Pulitzer, des choses comme ça. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose en Flandre où il y a une forme de reconnaissance? Je sais qu'Angoulême, par exemple, il y a eu ces dernières années de l'argent qui a été injecté pour qu'il y ait un stand présent de la bande dessinée flamande, ce qui a eu inévitablement un impact, ce qui a permis de faire venir de jeunes auteurs au festival d'Angoulême, et donc de donner pour cette communauté l'impression qu'il y a quand même quelque chose qui se passe. Mais est-ce qu'à l'intérieur de la Flandre, c'est quelque chose qui est relayé? Il y a cette pensée qui est là aussi. Je vois vos regards dubitatifs que personne ne sait.
Je ne sais pas. Je sais que le fonds de la littérature en Flandre investit beaucoup dans la bande dessinée. Ce qui est bizarre, parce qu'en fait, ce n'est pas vraiment de la littérature, mais c'est une partie qui est pour eux très importante. Je crois que le fait qu'il s'agit de dessins, qu'on a plus moyen d'être international, peut-être là, il y a une raison. Mais je ne sais pas si la perception des gens en Flandre vis-à-vis de la bande dessinée a changé, je ne sais pas.
Okay.
Ria, toi?
Un tout petit peu, oui, mais ça, le changement, ça va très, 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 très lentement.
Et tu fais partie des gens qui travaillent à cette reconnaissance avec ton travail de fond depuis des années, donc bravo.
Merci.
Bien, on pourra parler un peu de l'exposition. Donc, on a dit qu'il y avait donc les frères Paulet qui nous montraient toutes séries de planches, mais il y a surtout la personne en studio qui est celle qui a fait l'affiche, qui est éditeur vidéo. Je ne sais pas.
Oui, vidéo.
On va le dire comme ça. Et qui est là avec un. Il y a un livre que tu as fait chez Brice qui est donc Snow, qui est un grand livre illustré assez impressionnant, mais il y a surtout les originaux qu'on peut voir ici dans l'exposition et qui sont d'autant plus impressionnants qu'ils sont très très grands. On a quelque chose qui est de l'ordre de du 50 sur 70, quelque chose de cet ordre-là en termes de taille. Donc ce sont des grandes illustrations très très colorées. Pour en parler en deux mots, Snow, c'est l'histoire d'un bonhomme de neige qui dérive vers une île plutôt chaude et qui est donc immédiatement mis en danger puisqu'il commence à suer abondamment. Et donc, il doit trouver une solution pour survivre d'une part et puis rentrer chez lui. Et il va pouvoir le faire grâce à une série de personnages assez grandiloquents. On parlait tout à l'heure du grotesque. Bon, je suis persuadé qu'il y a un rapport au grotesque dans la bande dessinée flamande. Et là, il y a quelque chose de cet ordre-là qu'on retrouve, qui est des personnages laids, suintants, et qui vont, certains vous le poursuivre pour le détruire, d'autres pour l'aider. Et au bout du compte, finalement, on peut le dire, il va quand même avoir de la chance dans la vie. C'est une bande dessinée c'est à la fois une bande dessinée, mais en fait ça relève très très fort de l'illustration, et même de l'illustration presque enfantine. Il y a quelque chose de, c'est une histoire très simple. On a un personnage, on a des grandes cases, on a des pleines pages, on a des pages exactement comme dans les livres d'enfants qu'on a montré, puisqu'on peut montrer l'image aux enfants et dire tiens, t'as vu là, regarde dans ce coin, il y a plein de détails à l'intérieur de l'image. Est-ce que ce rapport à une bande dessinée presque infantile, c'est quelque chose qui t'intéressait de mettre à l'intérieur?
Can I answer that in English?
In English, yes. This kind of big picture you set up,
yes.
Has something to do with book for children. You know, you can show little places.
The things I make are inspired by the things I love also, which I think is natural in a way. So it's a children's book like Paul Palampingo. I don't know what the French version is called.
No.
It's Danish.
Petsy.
Petsy.
Yes. Something like that. That was one of my favorites growing up myself. So it had to be in my own book. So it came out, but it's slightly distorted.
Yeah.
Je peux quand même préciser que tu parles de livre pour enfants, c'est pas un livre du tout pour les enfants.
Non.
C'est chargé.
Non, je ne suis pas d'accord.
Pour les petits enfants, peut-être pas.
Petit.
On peut discuter, mais c'est juste qu'il y a du sexe et il y a des choses de l'ordre du corps décharné. Il y a des accidents corporels assez puissants. Ah. Des il y a des personnages assez malveillants. Je ne dis pas qu'il faut protéger les enfants de ça, mais c'est quand même un univers que je pense qu'il s'adresse plus à l'adulte. Voilà.
Can it be read by children for you?
Sure.
Sure?
Yeah.
From which age?
You have children of four, five that think it's fantastic, so I don't think it's bound to a certain age.
Et toi, Ria, tu dis?
Je pense que ce livre marche à deux niveaux.
Mm-hmm.
Les jeunes, et les très jeunes enfants même, ils y voient autre chose que les adultes. Les adultes ont déjà un background. Et oui, c'est comme...
C'est sûr que ce n'est pas Mike Diana, donc il ne faut pas exagérer. Mais il y a peut-être
ça.
Plusieurs niveaux de lecture, en effet.
Ouais, c'est ça, ouais.
Ok. In this book, donc je vais dire en français, dans ce livre, il y a aussi beaucoup de citations. On a Beavis et Butthead, par exemple. On va avoir Popeye. On va avoir toute une série d'autres personnages qui sont pas comme pour Ian Paulet, des choses qui ont à voir avec le milieu de l'art. On va pas avoir Andy Warhol qui se balade dans les planches, mais on a beaucoup de personnages qui sont issus d'une culture graphique, en effet, et d'univers parfois d'enfants, mais aussi Crumb qui est évoqué dans les planches. Et est-ce que c'est, pour toi, c'est une façon de parler d'obsession, ou est-ce que c'est une forme de langage, de clin d'œil que tu veux faire au lecteur?
You're asking me if it's an obsession, if I put my obsessions in my work?
Yeah, or something that's very wielded as a way to use reference to point certain things in the thematic.
I think it's very playful. Everything, you know, I take elements from things I love, not just children books and cartoons, but also things like Bosch, paintings from Bosch and Bruegel. And I mix it all together and I make a story with it. It's like...
It's not a statement. It's not meant to be a statement.
No, not for me personally, no. Mm. It's just having fun.
Yeah, okay.
Yes. Not really.
Yeah, but also it's fun, but it's something around a very dramatic event. Snow personage that have to is in danger.
I think it's yes. There is something dramatic to it. It's not a happy. Some things are not really happy. There's danger.
But again, that's on a second level.
Yes, it's. I'm trying to tell something, but I think. I have to remain playful while I'm telling it. It can be too serious. I don't like it that way. It has to be a bit playful.
Yeah. You have to be to find some joy to do it, because it's a very large illustration. So when you are working on it, I'm sure it takes a lot of time. And do you prepare these kind of images, or are you going quite straight in it?
Quite straight, really. Yes, I'm drawing in pencils first, and just painting over it. Sometimes I use references. For example, the children book characters, of course. The paintings. I use certain elements which I transform a little, but. Usually it's just thinking about how I'm going to construct it and just do it. Yes.
I know that you are, I don't know quite well your work, because we don't know it. We are discovering it just because of Breeze. Yep. But I saw on your website that you are working for a newspaper or a magazine, making some illustration. Here it's your own project. Or yes. Is it quite different, because you make something quite close to children drawings, I think. Some little drawing, very colorful, playful, but more like with one level for the kids. It's more two levels.
Yeah.
So was it different to work on this?
Everything. I think you can find joy in doing different things.
Mm-hmm.
So if I just keep it, you know, for the kids, and but really I don't really have an opinion like this is not for kids. Many people think that it shouldn't be for kids, but
I
understand, you know, some things like commercial illustrations for kids,
mm-hmm.
you can't go too far in it, you have to stay.
Yeah.
I like it that way too. It's just another approach.
Yeah, but when it's your own book, you have to. It's a challenge because you have to. You give something more from you in terms of thematics, the view, the way you see the world, and things around. So yeah. it can be quite disturbing if you are working just in a straight way, working for magazine. You know what people want from you.
Yeah.
And here, in terms of thematics and way of seeing life, is it more close to what you are doing?
Yes, certainly. Yes.
And so this is no personage, it's quite you, in fact. Melting in the sun, no?
Well, maybe, I don't know. Yeah, could be. I don't want to get too psychological, but maybe it is.
I don't know. It was just a way to have a view on it.
Yeah.
Ok, je voulais revenir avec toi, Ria. On parlait tout à l'heure justement du fait que tu recevais une bonne partie de subsides provenant de la culture flamande. Or ici, on a un moment politique assez charnière dans lequel on a une politique de droite qui va arriver beaucoup plus fort, avec un risque qui est déjà annoncé d'une coupe dans les budgets de la culture. Est-ce que ça va mettre en danger une maison d'édition comme la tienne et une partie de la culture en Flandre ?
Oui, mais on ne sait pas encore où on va couper. Mm-hmm. Il faut attendre.
Parce qu'une bonne partie du développement culturel de la Flandre a tenu à une politique, une vraie politique du gouvernement flamand, de promouvoir la Flandre à travers la culture, ce qui était un pari vraiment très très fort et réussi par ailleurs, hein, que ce soit en danse, mais dans le domaine, dans l'opéra, dans le théâtre, etc. Il y a eu un vrai rayonnement dans la littérature, un rayonnement de la culture flamande qui s'est fait pour ça. Et on a l'impression ici que la Flandre est en train de casser ses beaux jouets, puisque ce bel outil, qui est un bel outil de rayonnement, mais aussi qui permet vraiment une production culturelle très forte et donc aussi des retombées financières provenant de la culture assez forte. On a l'impression qu'ils sont en train de détruire ça. C'est un peu... En Wallonie, on a toujours l'impression que la culture est laissée derrière parce que les gens s'en foutent et qu'ils mettent toujours celui à qui ne donne pas un beau cabinet, on lui donne la culture en disant « bon, débrouille-toi avec ça », alors qu'on a toujours l'impression que la Flandre était fort derrière cet aspect-là, que c'était un poste important. Et donc, de notre point de vue, j'ai l'impression que c'est un retour en arrière un peu triste.
Je n'ai pas tellement peur d'une réduction, mais plutôt la vision de notre nouvel gouvernement flamand. Ça, c'est, je pense qu'on revient, qu'il s'intéresse peu pour les arts, comme tu viens d'expliquer. Mais qu'il est mieux de mettre le folklore.
Ah,
ouais. Tu sais, avec le NVA.
Oui.
Et ça.
Si je peux te corriger aussi, il y a quand même beaucoup de directeurs de théâtre, de maisons de culture, etc., qui ont quand même peur et qui se posent la question qu'est-ce qui va se passer ? Parce que nous, on a vu ce qui s'est passé en Hollande. Il y a 2-3 ans, et là c'était vraiment, on a carrément coupé les budgets. Et donc il y a des théâtres qui se sont fermés, comme ça quoi. Parce que le gouvernement n'attachait pas tout à coup de l'importance à ça. Mais donc nous on ne sait pas si on va être dans le même bateau. Hein.
Ok, je vais juste terminer une dernière question. Ria, qu'est-ce qu'on peut voir dans cette magnifique exposition que tu as amenée avec toi ? Donc on a dit qu'il y avait donc de très grandes illustrations de vidéos. Il y a une espèce de... Moi, je l'ai plutôt vu comme une spirale des deux frères Paulet autour de hauts scénarios et de boulots plus anciens. Et puis, on a encore d'autres boulots. Qu'est-ce que tu peux nous dire ce que nous avons ? Parce que toi, tu connais très bien cette expo maintenant.
Oui. Alors, des planches originales de Brecht van den Broeke. Du livre White Cube. Des extraits de Plusie Entente. Le titre néerlandais, c'est Meer als het klikt, mm-hmm. par Dominique Oblet et Kai Pfeiffer. Et en plus, ils ont dessiné des dessins, ils ont découpé. Hein, ouais. Et ça, c'est en fait, ça sera une exposition dynamique. Alors maintenant, ils montrent ça, mais dans quelques mois, je pense que c'est très bien possible que l'exposition sera montrée autre part. Et alors, ils vont ajouter d'autres dessins, aussi découpés. Ouais. Pour eux, c'est un jeu. Il y a aussi les...
quelques planches d'Olivier Schrauen aussi,
ouais,
qui sont magnifiques.
Oui, alors on peut... j'ai entendu des visiteurs que c'est très intéressant pour voir ces dessins originaux, parce que comme c'était Brecht van den Broeke, je pense, qui m'a dit « Ah, il fait des erreurs
oui. !» Je me suis fait la même réflexion, parce qu'en fait, c'est pour les gens qui n'ont jamais vu son travail, c'est une ligne claire, ça a l'air très très maîtrisé, donc on a vraiment l'impression que tout est posé comme ça, que tout va très bien. Et en fait, c'est vrai, quand on voit les planches, quand on est dessinateur, on a un petit sourire, on se dit « Ah, quand même !» Il y a des parties de cases, voilà, il revient avec un papier blanc et puis il refait son dessin. Et c'est très intéressant à voir, en effet.
Oui. Il y a une grande tradition de la bande dessinée retouchée versus la bonne bande dessinée, bonne tout de suite. Et quelqu'un comme Franquin, par exemple, est assez sauvage par rapport à ses originaux. C'est toujours très, très beau à regarder. Et ici, on est plutôt dans quelque chose comme ça. En effet, alors qu'on a plutôt l'impression que c'est un espèce de Winsor McCay qui se serait réincarné au XXIe siècle. Et donc là, non, en fait, pas du tout. Il y a des petits trucs. Alors, Johanna me dit qu'il faut leur dire au revoir.
Il va falloir qu'on commence à dire au revoir. On n'a pas cité tous les auteurs, parce qu'il y a aussi...
Il y a aussi Martha Verschaffel. Elle est en train de faire un livre et le livre va apparaître le printemps 2015. Ils sont aussi des dessins en crayon. Et le dernier, je pense, le dernier.
Céline
Udreau. Oui.
Et il y a aussi, alors je ne sais pas très bien dire son nom.
Oui, bien sûr. Oui, oui, ok.
Je crois qu'on a fait.
Eh bien, voilà, Ria, bonne chance, bonne continuation. Donc, on l'a vu, un parcours super complet entre la librairie, puis une galerie, puis l'édition, et puis maintenant, monteuse d'exposition. Donc, on espère que tu vas continuer comme ça et à nous abreuver de très bons livres. Les livres des éditions Brie sont toujours très beaux. Trouvez-les en librairie. Ils ont un petit velouté de surface comme ça qui est toujours élégant. Il y a une forte élégance ici dans le livre de haut scénario de Yann et ton frère est Pete Paul, et donc va sortir de nouveau. C'est un très beau livre avec une tranche noire, ça a de la classe. Le bouquin de Dieter est aussi un très beau grand bouquin, donc voilà, il faut aller voir ça. Bonne continuation, merci d'être venu.
Merci.
Et à bientôt.
Demain jusqu'à 22h.
Demain jusqu'à 22h pour la voir. Ouais. Et apparemment elle tournera encore un petit peu, puisque tu dis que les planches vont évoluer, donc j'imagine qu'elle sera visible encore, cette exposition, ailleurs.
Oui, on espère. Mais je pense que... Non, ok. On est en train de... on est cherchante.
Oui, ouais. On recherche d'autres lieux pour la montrer.
Oui, oui.
Cool.
D'accord.
Eh bien, merci beaucoup.
Okay. Merci.
Merci. Merci.
Voilà, donc cette pause musicale, le premier morceau c'était La Femme Anti-Taxi, on a choisi, donc le groupe c'est La Femme et le titre c'est Anti-Taxi, et on a choisi ce morceau puisque c'était illustré par Elzo Dirt. Le deuxième morceau c'était Savon Tranchant, La Tâche. Il faut savoir que Benoît Pretzel est à Culture Maison avec sa maison d'édition Yon. Donc ça, on reste dans la thématique puisque nous parlons de Culture Maison sur Radio Grand Papier ce soir. On a changé d'invité pendant la musique, donc maintenant on accueille Loïc Gaume, Guillaume Trouillard et Aurélien Débat autour d'une exposition donc, qui a lieu pendant Culture Maison, mais hors les lieux, puisqu'elle est rue de Rome, donc c'est toujours Saint-Gilles à Bruxelles, mais c'est dans... voilà, j'ai un trou...
La maison du livre.
Voilà, la maison du livre. Et c'est une exposition qui va durer beaucoup plus longtemps, par contre, qui dépasse le week-end et qui est visible jusqu'à la fin du mois, grosso modo. Cette exposition s'appelle Ribambelle. Elle accueille différents auteurs. Il y a donc Loïc Gaume, qu'on a déjà reçu à la radio il n'y a pas si longtemps. Stéphane De Groof, Benoît Jacques, Aurélien Débat et Guillaume Truyère qui sont avec nous, José Parando, Vincent Pianina, Jochen Gerner et Philippe Weisbecker. Tu vas nous dire, Loïc, un petit peu, en quelques mots, comment est née la collaboration assez vite avec Culture Maison, puis après, comment, parce qu'il y a une thématique spécifique qui est de l'ordre de l'inventaire ou de la série, comment tout ça s'est mis en place, comment tu as choisi les auteurs, comment tu as monté cette petite exposition, qui est quand même assez conséquente.
Oui, du coup la proposition de Culture Maison s'est faite cet hiver. Et j'avais cette série de façades que j'avais commencé, qui me plaisait de présenter rapidement. L'idée d'avoir des invités pour un peu agrémenter. Pas seulement agrémenter, vraiment illustrer le propos est venu assez rapidement, du coup. C'était des auteurs à la fois dont je pouvais apprécier le travail, mais aussi qui avaient cette démarche autour de l'inventaire. On a des originaux de ces façades. C'est un peu comme un panorama de mon quartier, finalement. Mmh. Qui présente une quarantaine de façades, des façades anonymes, qui ont pu m'intéresser de retranscrire, etc. Une autre série de bâtiments qui s'appelle Velux et qui a été produite pour Shikuchi. Enfin, rapidement, plutôt que de la narration, etc., c'est plutôt le côté collection qui m'intéressait.
C'est ça, en fait. Le point commun de tous les auteurs qui sont là, c'est qu'on ne trouve pas de la planche de bande dessinée, on trouve de la série. Donc à chaque fois, quels que soient les auteurs, on a toujours une forme de répétition. Donc voilà, après on parlera un petit peu plus de Guillaume et Aurélien en détail. Mais juste simplement peut-être terminer sur l'ensemble des auteurs, c'est des gens que tu connais. Du coup, ça a été l'occasion d'aller vers des gens que tu ne connaissais pas ou...
Bah, justement, Aurélien et Guillaume, on ne se connaissait pas d'avant, je connaissais très bien leur travail. Mais sinon, enfin, Jochen Gerner, par exemple, on se côtoie un peu, José Parando, etc. Philippe Weisbecker, un peu moins, mais ça me paraissait assez incontournable de l'avoir aussi. Tout son travail est fait à partir de séries, de bâtiments, etc. Aurélien aussi, on se connaît quelque peu. Donc oui, en gros, oui, c'est des gens que je peux côtoyer, mais pas seulement.
C'est fou de voir à quel point de voir qu'il y a autant d'auteurs qui travaillent finalement sur la série. C'est un peu une découverte. On peut parler peut-être un petit peu de toi, Guillaume, puisque ton livre, Welcome, qui est du coup complètement dans la thématique, est sorti assez récemment.
Oui, dans l'année.
D'accord.
En fin d'année dernière.
D'accord. Donc, toi, pour situer un petit peu rapidement la chose, tu es fondateur des éditions de la Cerise.
Oui.
Et c'est au sein de cette maison-là qu'on trouve la plupart de tes bandes dessinées.
Toutes mes bandes dessinées.
Toutes tes bandes dessinées. Il y a aussi le collectif Clafoutis, ouais, que tu diriges. Uh-huh. Alors, donc, Welcome, c'est vraiment un ouvrage très particulier, puisque ce sont des planches. Mm-hmm. On va avoir des planches de mammifères marins, puis juste après... des planches de satellites, et puis des cellules cancéreuses, et puis des canettes de bière. Donc voilà, c'est une sorte d'inventaire du monde tel qu'il est aujourd'hui. Mm-hmm. D'ailleurs, le sous-titre, alors je l'ai noté, attends, mais je vais peut-être pas le retrouver. Dis-moi, Stéphane, le sous-titre.
Inventaire pour l'enfant qui vient de naître.
Voilà, alors c'est troublant parce que ça montre un monde qui est parfois poétique, mais c'est aussi, ça montre un monde violent. Moi, j'ai un enfant bas âge et je me suis dit, je sais pas si j'ai envie de tout lui montrer dedans. Alors je me suis dit, est-ce que c'est une partie du monde que j'assume pas ou...
Oui. Alors j'essaie de répondre à ma façon à ton questionnement juste avant que tu parles de mon travail. Je reste persuadé qu'un auteur de bande dessinée ou quelqu'un du moins qui s'y intéresse et qui lorgne autour de la bande dessinée a quelque chose à voir avec le côté un peu... répétitif et sériel et monomaniaque ou bien du moins obsessionnel. Et donc voilà, c'est pour ça que c'est pas vraiment étonnant d'avoir des auteurs, pour peu qu'ils fassent un pas de côté, finalement soient attirés par la forme de l'inventaire. C'est mon cas, et parce que j'ai toujours une fascination pour les collections de scarabées. Si tu veux, voilà, la répétition d'un motif et en même temps sa variation infinie, enfin, ce genre de choses-là qui, à mon avis, vraiment, peut-être sont aussi dans ce qui peut fonder un futur auteur de bande dessinée. Et voilà, je crois que c'était une idée qui devait être pas bien loin, et à la naissance de ma fille, la semaine d'après, j'ai entamé ce projet.
Ouais. D'accord.
Donc, je ne l'ai pas vraiment fait en pensant faire un livre pour enfants, tu vois, pour répondre là aussi à ta... et d'ailleurs, je ne lui ai pas encore fait la lecture de ce livre.
Quel âge est-ce qu'elle a ?
3 ans.
Oh ouais,
C'est vrai que ce qui est assez beau dans ce livre, c'est... C'est vrai qu'au début, on pense plus à un exercice. On se dit, OK, le gars, il se fait plaisir. Voilà, ah, il fait des fleurs. Ah, il fait des chiens. Ah, il fait des mollusques. Bon... Et en fait, non. Au bout d'un moment, l'association, elle devient perturbante. Puis l'accumulation aussi. Puis on se dit... Enfin, moi, plus j'avançais dedans... Bon, déjà, il y a des inventaires qui, sur lesquels on passe assez vite. Et ça, c'est chacun suivant sa lecture. Puis d'autres sur lesquels j'ai passé 10 fois plus de temps, sans savoir pourquoi. C'est pas parce que j'aimais particulièrement celui-là, mais c'est parce qu'il, d'un coup, il est plus interpellant. Puis il y a une association, comme ça, on tourne une page et puis on passe de une série de champignons atomiques, et puis d'un coup, on a des chiens. Et il y a des associations qui finissent par vraiment porter du sens de plus en plus. Et donc, ça dépasse complètement l'exercice.
À vrai dire, c'est le seul moteur de... Enfin, c'est pas le seul, puisque avant, j'ai parlé de l'autre, qui est plus quelque chose de l'ordre de l'attirance et du sensitif. Après, le principal, et le déclic, il a été voilà, celui-ci, c'est que j'essaye de parler... Enfin, j'ai des thématiques et des choses qui m'obsèdent, ou qui me hantent, du moins. Et c'est la raison pour laquelle je suis auteur. Sur un précédent projet que j'ai mis de côté pour faire celui-ci, je chapitrais l'histoire par une collection aussi d'objets. C'était un récit post-apocalyptique. Et ça parlait aussi déjà des objets industriels, enfin du moins... Enfin voilà, il y avait quelque chose autour de ça. Et surtout, ça m'a fait prendre conscience que souvent je m'enlisais dans une obligation de narration... et qui n'était pas forcément saine, et qu'il fallait que j'assume aussi une émancipation vis-à-vis de l'obligation de raconter une histoire avec un personnage qui s'ébat dans un monde. Et donc, voilà pourquoi je me suis... ça m'est apparu très très vite, et après, il fallait juste tenir le coup pendant 2 ans. Donc ce livre, voilà, c'est vrai que je voyais bien à l'atelier que les collègues dessinateurs de BD... Enfin, souvent, il y avait des gens de passage qui me demandaient « Alors, c'est une commande, c'est pourquoi ?»
Mais c'est vrai que dans d'autres livres que tu as fait avant aux éditions de la Cerise, il y a toujours, on retrouve comme une espèce d'obsession, voilà, l'opposition nature et société contemporaine, comme un clash à chaque fois, comme si c'était impossible. Et je trouve que finalement, c'est dans Welcome que c'est le plus... Alors qu'on a quitté la narration... C'est, l'impact est, je trouve, plus juste que dans tout un récit.
Je crois aussi. Oui, je crois aussi. Bon, après, c'est le dernier livre que j'ai fait, donc peut-être qu'aussi il est un peu plus mature. Mais oui, c'est là, clairement, je pense que c'est impossible de se le cacher. Ça parle du monde industriel, du monde productiviste.
Ça parle des conflits, ça parle de la pollution, voilà.
Oui, on pense à un film comme Notre pain quotidien, par exemple, que tu as peut-être déjà vu. Ou moi, je pense à Hans-Peter Fellmann, qui est un pop, tout un artiste lié au pop, mais entre le pop et le conceptuel, qui a fait un bouquin qui s'appelait Voyeur, qui est un petit livre dans lequel on retrouvait en fait comme le catalogue de toutes les images auxquelles on est confronté en une journée. Donc on passait de la photo souvenir à la photo de presse, à la photographie érotique, etc. Mais tout était mis pêle-mêle comme une espèce de paysage continu auquel on serait confronté sans rupture. Et il y a ça dans ton bouquin, puisqu'on a, ben on a plutôt des formes d'association. Ici, on a des godemichés qui sont suivis par des vierges Marie. Donc là, au niveau de la forme, il y a un rappel, et en même temps, on a une rupture au niveau de, et même une opposition qui se crée, etc. Quand on fait une, on travaille sur la collection, et ça c'est une question qui peut s'adresser à tout le monde, il y a une question de la clôture qui arrive. Il y avait une anecdote assez que j'ai gardée de mes années d'études. Un de mes professeurs était par ailleurs conseiller artistique, et un jour il a vu accès à une collection d'un type, un de ces Belges, vous savez qu'en Belgique il y a énormément de collections privées, et là et c'était une collection privée, et il y avait une série d'eau fortes qu'il m'a montré, et donc c'était, enfin, non, qu'on lui avait montré, et voilà, c'était une 12 eaux fortes, je sais plus de qui c'était, hein, d'un artiste flamand, la flamande, et elles étaient magnifiques, et il dit, elles sont fantastiques, et le collectionneur lui dit, il en manque deux. D'un air désolé, comme si ça venait détruire, en fait, la qualité du travail lui-même. Donc, chez les collectionneurs, il y a toujours cette idée de, quand est-ce que ça fait, et devant tous les boulots qui fonctionnent sur l'itération de la collection, quand est-ce que ça s'arrête, quand est-ce que c'est clos, et quel système organise l'information à l'intérieur? Donc ces deux questions-là sont toujours impendantes. Dans ton cas, est-ce qu'il y a une forme d'organisation, est-ce qu'il y a une forme de clôture à ce livre? Il y a un moment où ça s'arrête de manière logique?
Oui, oui, tu as raison. En fait, tu touches un point essentiel. Et on va dire que c'est plutôt une fois que la démarche est lancée, que l'opération est lancée du projet du livre, ensuite il s'opère aussi le temps de la réalisation. Ce temps-là, il est long, puisque bon, pour plein de raisons, j'ai découpé, enfin, je me suis passé de l'ordinateur pour faire ce livre, donc ça a été un long chemin. Bon, ensuite, y a des redondances, en ce qui concerne Welcome, hein, y a des planches qui viennent vraiment alourdir des propos, ou au contraire, enfin voilà, il y en a d'autres qui, au contraire, vous inspirent une autre, et ça fait un effet boule de neige. Donc, assez rapidement, j'ai senti que sur ce bouquin, il fallait tout simplement que je me laisse comme clôture une date de bouclage. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. Donc, il y a des choses qui sont passées à l'as, que je regrette, mais il faut bien que ça s'arrête à un moment. Je sentais que je commençais à me répéter un peu sur des thématiques ou des problématiques. Et donc, voilà, je regrette vraiment de ne pas avoir fait les nids d'oiseaux ou les toiles d'araignée, mais bon, voilà.
Et au niveau de la structure du bouquin, est-ce que c'est les dates de fabrication qui déterminent ?
Non, ça n'a pas été les dates de fabrication. Ça a été une des pistes pour l'agencer. Sauf que comme je ne suis pas assez rigoureux, je ne les avais pas notées. Donc j'étais infoutu de m'en rappeler exactement, précisément. Donc ça aurait été triché, de toute façon. Alors simplement, là aussi, je me suis laissé guider par une certaine... Enfin, je l'ai pris avec des contractions et ça s'est fait quasiment, on va dire, les deux dernières semaines au moment de la maquette sur le logiciel. Voilà, j'ai défait le fil de la pelote là qui était amassée et ça aurait pu être une autre. Bon, se sont posés pas mal de questions, il y a eu pas mal de nœuds, mais en assumant complètement qu'il aurait pu être écrit de 10 façons différentes. À partir du matériau, j'aurais même pu le filer à quelqu'un d'autre, parce que ce qui comptait le plus, je crois que c'est des résonances qu'il y a entre plusieurs planches, qui peuvent se retrouver au début, à la fin, entre des résonances, entre des formes, des fois qui viennent de l'infini, de la nature, et de l'infini aussi de la production pléthorique, industrielle, hein. Et voilà, je pense que c'est pas le plus important n'est pas là. Donc après, c'est simplement de l'artisanat, varier certains effets, varier des plaisirs, faire des montées.
Justement, la question de la fin pour toi, puisque pour toi, Loïc, les façades, finalement, tu en fais toujours. Je crois qu'au fur et à mesure de l'exposition, tu viens nourrir...
C'est ça. En tout cas, oui, il y a eu un deuxième sas de façades qui sont venues. Elles se continuent mentalement, en tout cas, chez moi.
Si, si, ça va. Justement, comment tu penses arriver au bout? Qu'est-ce qui peut...
Y a eu le cahier quand même qui a clôturé mm-hmm. quelque part la série. Je crois que c'est quand on n'a plus la dynamique vraiment de ça où il faut s'arrêter. Enfin, dans mon cas, c'est ça. Mm-hmm. J'ai accumulé mentalement vraiment toutes ces façades pendant un bon moment et je pense que j'arrive bientôt à bout quand même.
D'accord.
De tout ça.
On va parler un petit peu de toi, Aurélien Débat.
Bonjour.
Bonjour. On change d'univers, on est dans quelque chose de beaucoup plus ludique. Ou alors, à moins que je me trompe, ça me paraît plus ludique. Toi, c'est un système tout à fait différent, un propos tout à fait différent. Toi, tu es plus sur un jeu de tampons, donc un jeu très géométrique, quelques couleurs choisies, et puis voilà, tu élabores une série d'éléments. Ça peut être une série de chiens, ça peut être une série de bâtiments. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu?
Moi, j'étais plus dans la recherche d'un système de représentation. Après, je me retrouve bien dans les propos de Guillaume quand il parle un moment de s'assujettir d'une narration. Mm-hmm. Et de se dire qu'en fait, si j'ai envie de dessiner des pylônes électriques, qu'est-ce qui m'empêche de dessiner des pylônes mm-hmm. électriques? Après, pour ce principe de tampon, ça a commencé avec un livre jeunesse sur le chantier. Dans mes recherches en dessin, j'avais des petits dessins avec des tas de sable, des traces de pneus, des machines, et j'avais envie d'avoir une répétition de ces éléments, de créer plusieurs séries de dessins. Et du coup, le tampon s'est avéré être un moyen assez pratique et paresseux de pouvoir répéter des choses mmh. sans avoir à les redessiner. Et après, je me suis un peu laissé prendre au jeu à trouver un système modulaire pour pouvoir multiplier les possibilités. Donc en fait, cette première boîte, c'est une boîte qui contient 25 tampons. Il y a des bouts de grue, des roues, des chenilles, des corps de machine. Il y a des pièces qui sont assez représentatives, d'autres qui sont assez proches de l'abstraction. Mmh. Et du coup, on peut partir dans des possibilités d'images très très larges. Et du coup, a suivi à ce projet le projet Tamponville, qui est dans le même principe de représenter la ville ou l'architecture.
Et donc là, on a sous les yeux des tirages, on dirait, alors il va falloir que tu nous éclaires techniquement, on dirait du rhizome, mais j'imagine que ce n'est pas.
C'est pas un rhizome.
Du rhizome, non, comment? De la rhizo, putain, du rhizome. Et... Je suis fatiguée. C'est beau, hein. Bon, bref, de la rhizo. Et donc, c'est peut-être pas ça, si tu parles de
c'est
de
la rhizo. Ça, c'est des images qui ont été imprimées par la suite.
D'accord.
Ici, effectivement, j'ai pas d'originaux au tampon. dans ce principe de... Du coup, dans ce principe tamponville, ça a été fait spécialement pour lors d'une résidence et pour une exposition. Et j'ai travaillé avec un architecte pour essayer de décomposer la ville et de voir comment la représenter. Et on a décidé de ne pas se limiter en quantité de tampons, de ne pas se contraindre à une boîte, à des contraintes d'éventuelles éditions. Et on a eu, du coup, 4 plateaux de à peu près 60 tampons chacun. Il y en avait un par couleur. C'était réparti par table et le public pouvait prendre une feuille, passer d'une table à l'autre et les expérimenter. Et après, je me suis servi de cet alphabet graphique pour représenter des bâtiments d'architectes dont j'aime bien le travail, ou vernaculaires. Et j'ai essayé d'épuiser ce système, et du coup, il y a eu à peu près une soixantaine d'images qui ont été faites à partir de ces tampons.
Et la même question, du coup, pour toi, il y a un petit livre que tu as fait qui s'appelle Toutou Tram. Qui est un fanzine de toutou en tram.
Oui.
Voilà. Justement, du coup, de nouveau, la même question, enfin, t'es genre partiellement répondu, mais comment on sait quand on arrive au bout? Parce que c'est tellement ludique, ça va vite. Une fois, j'imagine que tu as trouvé ton alphabet, comme tu dis, que tu as défini tes formes, tu peux faire...
Je pense qu'il y a un moment, il y a un petit épuisement, ou peut-être pour les chiens, c'était aussi un format d'édition. C'est un petit format auto-édité. En fait, les trams, dans les tampons de tram, j'en ai que des lignes parallèles. Et en bossant dans les autres projets, m'excitait bien de croiser ces lignes et de créer des vibrations et du coup de représenter du poil, ça m'a paru assez drôle quoi. Et du coup les chiens c'est plutôt poilu. Et voilà, donc j'en ai fait une petite série.
Du coup ça marche très très bien, donc pour essayer de décrire ça pour les gens qui nous écoutent, on a c'est un système de lignes, donc c'est croisé ou parallèle, et donc on a vraiment comme ça des zones qui se dessinent, et on, sans aucun trait, on arrive à avoir des figures canines hyper précises, voire même des paysages hyper fournis, donc ça marche vraiment super bien. Il y en a qui sont vraiment comiques.
Ce que tu racontais, c'est que tu avais un système, tu fabriquais des tampons avec des lignes horizontales, et qu'ensuite tu employais un système de cache qui permettait de, à ce moment-là, d'affiner, puisque évidemment si on utilise une trame avec que des lignes horizontales, on ne peut faire que des carrés, et donc ce qui marchait très bien avec les systèmes de grues, mais ici, comme l'idée de représenter quelque chose qui est poilu, charnu, qui a une forme qui est... On a des chiens qui sont vraiment identifiables dans leur race, donc quelque chose qui est relativement précis. Du coup, là, tu as employé un système où tu caches une partie du tampon.
Oui, c'est la différence avec les autres systèmes où un module fonctionne tout seul ou avec d'autres et tous fonctionnent ensemble. Là, c'est une image qui est plus complète. Et j'ai pas de tampon qui fait la taille de mon image, donc c'est ça qui m'intéressait aussi, c'est que je suis obligé de les cumuler, et forcément il y a des moments où ça se chevauche, et c'est pas forcément régulier et droit, il y a des vibrations que je trouvais intéressantes pour ce principe-là.
Ça c'est des choses, alors autant Guillaume, on peut vraiment facilement trouver tes livres, je pense qu'ils sont diffusés en librairie. Aurélien, c'est peut-être plus difficile, parce que tu parlais d'autoproduction, donc... Un endroit comme Culture Maison, c'est parfait, mais sinon, en dehors de ça, comment...
Par Internet.
Par Internet.
Après, dans des expos. Et après, c'est des très petits tirages. C'est des tirages à 100 exemplaires ou 200 exemplaires.
D'accord.
Après, moi, je... C'est un truc que j'ai découvert aussi avec... par rapport à l'édition jeunesse classique, où on a assez rarement, sauf quand on a la possibilité d'être éditeur, de pouvoir intervenir sur la fabrication et faire des choix. Où en fait, l'édition d'un livre n'est pas la représentation exacte de l'original, mais il y a déjà une interprétation, et ça, c'est super intéressant. C'est un truc que j'ai découvert aussi en travaillant avec des graphistes. On a vraiment des... possibilité de travailler avec la couleur et l'impression et la trame qui est très excitant.
Par rapport à ça, un mec comme Blex Bolex, par exemple, fait une espèce de figure, une figure majeure de ça, puisque c'est quelqu'un qui a vraiment travaillé à un moment donné l'impression jusqu'à imprimer lui-même, de venir avoir un contrôle total de l'éditeur. Oui, tout à fait. Et donc, voilà, lui, c'est pour le coup quelqu'un qui est à la fois assez présent dans ton boulot, on sent la manière dont tu viens superposer des couleurs pour en fabriquer de nouvelles, etc. Il y a cette espèce de beauté qui est liée à la méthode de tirage dans laquelle on voit la superposition des couleurs, donc il y a une forme de jouissance, et en même temps, ça oblige à travailler sur leur opacité, etc. Donc ça demande de gagner en contrôle sur le boulot qu'on est en train de faire, sans quoi on risque des déconvenus et des déceptions amères. Toi, tu as vraiment fait ce travail, tu as commencé ce travail il y a longtemps, d'un peu rentrer dans l'impression ?
Non, ça a commencé vraiment avec le graphisme et l'auto-édition, il y a 3 à 4 ans. J'ai vraiment eu l'occasion de m'intéresser à ça. Et la sérigraphie un peu avant étudiant, mais c'est vraiment... c'est assez récent.
Est-ce que Loïc, éventuellement, tu reviendrais sur l'édition ? Enfin, parce que l'exposition a été l'objet de la création d'un fanzine assez conséquent. Peut-être tu peux nous parler un petit peu de ce livre.
Oui, c'est le cahier Ribambelle, du coup c'est vraiment le cahier de l'exposition qui reprend une partie des dessins, mais surtout un cahier intérieur qui reprend toutes les interventions, enfin les propositions des invités. Donc pour la plupart sont inédites. Enfin, du moins réalisées pour. Certaines sont des reprises de livres existants. Mais oui, du coup, ça fait écho aussi à Pire. On en avait parlé la dernière fois.
Oui, tout à fait.
Et qui, voilà, enfin, c'est un peu un clin d'œil. Même si l'inventaire est quelque part un peu sous-jacent au récit déjà de Waffle, où je pouvais passer quelques planches à décortiquer, à décrire un endroit...
D'accord.
C'est façade. Mais oui, en quelque sorte, c'est...
Donc ça, c'est les éditions, les détails, hein, c'est éditions que tu mènes, toi, dont on a parlé la fois où on t'a reçu. Donc c'est un fanzine qu'on peut trouver à Culture Maison, j'imagine qu'on peut le trouver à la Maison du Livre.
C'est ça.
Et puis on va le trouver sur ton site.
C'est ça, surtout, oui.
D'accord.
Peut-être dans les les bonnes librairies bruxelloises.
Dans les bonnes librairies bruxelloises. Ok, je pense qu'on va s'arrêter là, on a fait le tour.
On peut peut-être rappeler que vous êtes présent sur le festival encore jusqu'à demain, donc vous avez sur des petites tables séparées, donc on peut avoir des discussions avec chacun d'entre vous, à la fois la cerise et ton livre qui se trouve juste à l'entrée, à côté de l'entrée.
J'imagine Loïc, que tu as amené toute une partie du catalogue, puisque c'est toi qui gères cette maison.
Oui, j'ai trimballé deux cartons et effectivement, oui, c'était l'objectif aussi de représenter les 12 ans d'édition.
12 ans, bien.
Ouais. Donc Loïc est aussi présent avec un ensemble de productions de sa petite maison d'édition. Et puis, toi, tu es là aussi. Toi. Moi,
Aurélien.
Aurélien de Bas est là aussi avec Toutram et d'autres boulots qui sont très, très élégants. Et voilà, c'est l'occasion en or de les voir parce qu'en effet, sur Internet, c'est un peu plus froid.
Ok, maintenant, on va écouter un petit morceau de The Ossies, Carrion Crawler. Et c'est de nouveau de la musique illustrée par Elzo Dirt. Voilà, vous écoutez toujours Radio Grand Papier, vous êtes sur Radio Campus. Alors, c'est une carte blanche, hein, comme vous le savez, normalement, Radio Grand Papier, c'est une fois par mois, le mercredi. On est là parce que c'est Culture Maison, donc on remercie Culture Maison, évidemment, et on remercie Radio Alma, puisque nous squattons leurs locaux, et c'est grâce à eux qu'on peut faire une émission en direct ce soir, donc c'est très très chouette. Voilà, alors pour cette dernière petite partie d'émission, on est plus en une formule un peu comme d'habitude. Donc voilà, on a reçu des invités et alors maintenant, on va plus chroniquer un peu rapidement des choses qu'on a trouvées aujourd'hui à Culture Maison. Parce que donc, c'est quoi l'intérêt de Culture Maison ? C'est qu'on a une cinquantaine de maisons d'édition et on trouve évidemment des choses assez différentes de ce qu'on trouve en librairie, puisqu'on est plutôt dans la petite édition, la micro-édition. On a aussi des fois des choses précieuses qui sont pas diffusées en librairie parce que voilà, c'est des objets qui souffriraient un petit peu trop. Donc on a des fois des tirages, on va avoir qu'une trentaine ou une cinquantaine de tirages, et donc c'est sur des stands qu'on trouve ça. Puis c'est le moment aussi où on peut rencontrer des gens. Donc voilà, nous on a choisi de vous parler de choses qui sont vraiment trouvables tout à fait dans ce genre de contexte et pas en librairie. Et alors pour ça, on a accueilli Jean. Bonjour Jean.
Bonjour, bonjour.
Qui est souvent plutôt à la technique, mais là ce coup-ci il est passé chez nous. Malheureusement, Philippe fait du vélo et Thalie, malheureusement, elle travaille. Donc, je parlerai pour elle de son choix de fanzine. Mais Jean, je propose que tu commences.
Allons-y. Alors, moi, je suis quelqu'un d'un peu timide, donc j'ai été vers les tables de gens que je connaissais, parce que je n'ai pas osé aller chez des inconnus. Alors, des gens qu'on connaît bien à Radio Grand Papier, ben, c'est les gens de Misma, qui ont publié l'excellent Meg Mogenhall, c'est comme ça qu'on dit.
Oui. Mm-hmm.
Voilà. Qui a une bande dessinée qui a beaucoup plu à l'équipe de Radio Grand Papier. Et alors, j'ai en main le dernier numéro de leur revue, Dopu Tutto Max. C'est le numéro 6. Alors, on retrouve tous les usual suspects, Anne Simon, Émilie Plateau, qui d'autre, Eldon Guillermo, etc. Simon Hanselman, bien sûr. Et alors j'ai lu ce dernier magazine et j'ai été fort touché par un récit d'une dizaine de pages qui se trouve en page 109 et qui est signé par quelqu'un qui s'appelle Claude Cady. Alors c'est un récit en fait qui raconte l'histoire d'une jeune femme qui se lève et qui se prépare pour aller travailler. Elle travaille dans une espèce de cafétéria. Et en fait, ce qui est assez étonnant, c'est que le récit démarre en noir et blanc, se poursuit en couleur, et il y a plein d'éléments, ça a l'air tout à fait ordinaire, tout à fait banal de premier abord, mais il y a plein d'éléments qui font qu'il y a un climat d'étrangeté qui est assez curieux, et que j'avais rarement rencontré en bande dessinée. Donc voilà, ça m'a beaucoup plu. C'est un récit de Claude Cady, dans le Dopu Tutto Max numéro 6.
D'ailleurs, Claude Cady, c'est un habitué du Misma, hein, parce qu'il a publié aussi des livres à leur catalogue et tout ça. Je crois qu'on le retrouve assez souvent dans leur collectif.
Alors, une autre petite découverte, c'est des éditeurs qui s'appellent Les Machines. où on retrouve quelqu'un qu'on avait reçu chez nous, Maxime Jeune, qui est basé à Bruxelles. Alors eux, en fait, l'idée qu'ils ont eue, c'est qu'ils ont un site internet sur lequel ils se sont mis comme contraints de publier une planche par semaine, et après de rassembler toutes ces planches dans un espèce d'objet tout à fait curieux, qui est un espèce de magazine qui se déplie en quatre. Alors il y a une partie, c'est de la 4, et une autre, c'est... quel est ce format-là, les amis?
Qu'est-ce que vous diriez? Ça n'existe pas, c'est une espèce de bande horizontale.
Ah non, ça c'est un format carré, et en dessous, on a une bande horizontale. Je pense que si on assemble les deux, ça fait un A4.
Ça fait un A4, oui. On voilà. Donc c'est un A3 plié en deux, puis coupé en deux bandes. De manière asymétrique, pour avoir une petite bande pour des strips et une autre pour des petits bouquins, un format plutôt carré. Voilà.
Voilà, alors au niveau du genre, ben, on est dans quelque chose qui est fort, fort humoristique, assez délirant, assez décalé. Il y a de la couleur, il y a du noir et blanc, il y a des dessins à pleine page, enfin... voilà, il y a un petit peu de tout, c'est assez riche, c'est très, très jouissif, très, très agréable à lire, et j'ai particulièrement bien aimé l'histoire d'un type en fait qui vit dans un appartement avec un chien. Il est persuadé que son chien est son colocataire, donc à un moment on leur coupe l'électricité, et il va voir le chien en disant « mais tu n'as encore pas payé la facture d'EDF ». Voilà, c'est tout des trucs comme ça, c'est assez délirant. Voilà, ça s'appelle...
Et l'objet est assez beau, quoi, c'est une sorte de double cahier... Oui, c'est bizarre.
C'est vraiment magnifique. Ils sont vraiment bien, bien amusés. J'imagine que ça doit être un boulot assez costaud. Et alors, si vous voulez voir leur site internet, c'est editionslesmachines.blogspot.com. Et alors, un dernier petit travail, une dernière petite publication. Eh bien, je suis un grand fan de Jean-Michel Bertoya. Donc, dès que je suis à l'antenne, je parle de Bertoya. Bertoya. Et ici, je ne savais pas, mais We All Go Down, donc alias Pascal Maté, a publié dans son We All Go Down 13 un petit fanzine signé Bertoya, et c'est comme d'habitude très très bien, c'est assez étonnant. En fait, We All Go Down, le principe c'est toujours de mettre un maximum d'encre noire, et ici ben, on retrouve Bertoya dans un espèce de truc hyper chaotique où il y a des tempêtes, il y a des orages, il y a des choses qui tombent du ciel, et en même temps dans le fond il y a parfois des espèces de figures un peu cuculapraline à la Walt Disney qui surgissent. C'est évidemment tout à fait étonnant, mais je ne vais pas dire que c'est une vieillerie, mais ça, voilà, ça date de 2011. Voilà, c'était ma sélection.
Ce qui est curieux avec We All Go Down, c'est que donc c'est toute une série de fanzines, et c'est anonyme en fait. Oui. Donc il faut discuter avec Pascal Maté, qui dirige cette collection, pour savoir qui est derrière. Voilà, ça c'est une information qui a été virée. Donc on a une série d'objets, donc la narration est quand même assez abstraite. On tire vers le noir, comme tu disais, vers le sombre, et puis on a plein de graphismes différents, et on ne sait pas toujours identifier. Oui. Et effectivement, parmi ces choses-là, il y a du Bertoya.
Et cette démarche-là de faire des trucs anonymes, ça me faisait un peu penser à ces musiciens techno qui font presser des disques qu'on appelle des white labels, sur lesquels il n'y a aucune indication, et qui les distribuent à gauche, à droite, donc on ne sait pas qui a fait les morceaux. Et voilà, je suis sûr que c'est quelque chose qui touche Pascal Maté, qui est aussi un grand amateur de musique et musicien lui-même.
Absolument.
Stéphane.
Oui, alors comme je sentais qu'on allait prendre des choses plutôt élégantes, moi j'ai voulu aller chercher un nouveau fanzine dans la tradition du fanzine, puisque ce genre d'édition de festival, c'est aussi l'occasion pour des jeunes auteurs de montrer leur boulot, parfois pour la première fois, parfois pour se faire en fait à la main à ce travail d'éditeur qui a plein d'aspects. Il faut se réunir, il faut fabriquer des trucs, et puis après il faut les vendre des festivals, les distribuer, et tout cet aspect-là on l'apprend notamment dans les festivals. Tous les vieux éditeurs ont des anecdotes de dingue de festivals où ils se sont bourrés la gueule, où il y avait personne, ou etc. de ça. Et donc voilà, ici je suis venu avec le loyer numéro 10, donc ça veut dire qu'il y a déjà eu pas mal de numéros. De qui est-ce fanzine? Eh bien, comme d'habitude, quand on ouvre, on faudra aller à la chasse aux informations, parce que comme tous les fanzines, il y a plein de petits trucs écrits dans les coins un peu déconnants, mais très peu d'informations qui permettent de savoir quand ça a été fait. Par exemple, là je sais que ça, il est d'aujourd'hui, il vient de sortir, mais en fait on ne peut le savoir nulle part quasiment. Alors de qui c'est? Eh bien, il s'agit de Jean Guichon, éditeur, qui est une association de 16
16 personnes qui publient donc le loyer tous les mois et qui avant ça faisaient, figurez-vous, un fanzine qui s'appelait Caca Nerveux. Ça ne s'invente pas, c'était un bon nom à la fanzine, donc quelque chose de scatologique pour faire remuer les grands-mères. Et donc voilà, donc c'est, on est vraiment de cette tradition-là. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'ils sont 16 et qu'ils se réunissent à 16 et que chaque numéro du loyer est issu d'une équipe éditoriale différente. C'est-à-dire que non seulement c'est des gens différents qui posent une thématique et qui suivent un peu le travail, mais c'est aussi d'autres personnes qui mettent en page. Car comme vous le savez, dans les fanzines, souvent, après quelques numéros, c'est toujours les mêmes qui se tapent le boulot et les autres qui disent « ouais, il faudrait faire ça » ou « alors il faudrait faire ça ». Mais au moment où il faut bosser, c'est plus que les quelques-uns qui savent comment utiliser Photoshop et InDesign. Or ici, ils ont à cœur de bien distribuer le travail, ce qui me semble politiquement quelque chose d'assez important. Ils se définissent comme horizontal, ils m'ont dit « tu peux pas citer de nom » ou « alors il faut nous citer tous ». Mais il se trouve que j'ai quand même rencontré l'un d'entre eux, qui est Félix Laurent, qui était derrière la table et qui est le plus prolixe en parole. Donc du coup, c'était lui mon interlocuteur. Et c'est donc lui que je cite, parce que tous les autres, ils sont un paquet. En plus, ils ont tous des pseudos, genre Dolmax ou Fred Paris ou Joda Revelator. Donc qui ont derrière ça, on ne sait pas très bien. Et en fait, ce sont des étudiants de Saint-Luc qui sont sortis pour la plupart l'année passée. Donc c'est un jeune collectif. Et donc, ils sont assez actifs puisqu'on a déjà 10 numéros sur 10 mois de loyer. Ils m'ont confié qu'ils étaient en train d'arrêter et qu'ils allaient démarrer autre chose, de faire de l'édition comme les grands, c'est-à-dire des bouquins un peu plus conséquents, etc. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans le loyer? Bon, déjà, il faut spécifier que c'est plus exactement du fanzine, genre un gros truc photocopié n'importe comment avec deux grosses agrafes sur le côté. Ici, c'est un dos carré collé qu'ils ont fait parce qu'ils ont eu un petit peu de fric qu'ils ont réussi à tirer. Ils disent que c'est leur grand-mère qui leur donne l'argent, mais je n'y crois pas beaucoup. Et à l'intérieur, on va trouver de la photocopie la plupart du temps laser, donc avec un niveau de gris suffisant, et même de la couleur, puisqu'il y a des choses qui sont vraiment imprimées en quadri et des choses comme ça. Alors, on a, comme dans tout fanzine, à boire et à manger, des choses assez virtuoses, des trucs vraiment crapuleuses. La plupart du temps, on est dans un registre d'humour, parfois un peu potache, mais on a déjà tout à fait d'autres choses, qui est une preuve de bonne santé, des choses qui tirent plus du côté de l'illustration, des essais avec des photographies, une collection de photos de portraits trouvés, par exemple, datés, à l'intérieur, et un petit peu de nouvelles, comme d'hab, et après ça, des choses assez déconnantes, des récits assez symboliques, comme on en trouve beaucoup dans les fanzines, contre l'oppresseur, contre la société de consommation. Par exemple, ici, on a à la carte à gratter un personnage qui est marionnettiste, la symbolique du marionnettiste dans les fanzines. Il faudrait écrire un mémoire là-dessus. Mais tout ça est assez vivace et c'est toujours intéressant d'avoir dans un festival ce genre de petite structure qui démarre avec des types qui ont toujours des bières devant eux et qui parlent grâce et qui sont toujours très chouettes à rencontrer. Donc approchez-vous des tables, laissez-vous haranguer, il est toujours possible de prendre un truc en main et puis de dire au final ouf, ça m'intéresse pas, et de le reposer. Donc, mais ce qui est intéressant, c'est la rencontre avec des éditeurs. Faites donc ça.
Alors, comme tu disais, Stéphane, tu dois me connaître un petit peu, c'est vrai, j'ai été vers un truc assez élégant en général dans ce genre de festival. C'est vrai, parfois je sature un peu avec la sérigraphie, donc je mets un petit peu du temps à aller vers les gens qui affichent exclusivement de la sérigraphie. Mais après avoir fait un petit tour global, je suis retournée vers un couple, enfin en tout cas deux personnes, qui proposent des choses en sérigraphie sous le nom de Lapa. Alors, je suis un peu timide, mais j'ai quand même un petit peu parlé avec eux. C'est une Québécoise et un Français. Donc, ils s'installent tout juste à Bruxelles. Et donc, ils font de la sérigraphie. Ils m'ont expliqué qu'ils faisaient un peu des choses de commande, qu'ils invitaient certains auteurs. Et il faut une série de fanzines, voilà, ils s'auto-éditent en sérigraphie. Ils sont adorables et ils font un boulot très élégant. Et donc j'ai un peu craqué sur un petit fanzine, donc en sérigraphie, qui s'appelle A Part of the Family, donc de Rebecca Rosen, qui est donc une des deux figures de Lapa. Elle m'a dit qu'elle l'avait fait tout juste pour Culture Maison, donc c'est vraiment un petit fanzine tout frais. Ce qui est très chouette dans ce fanzine, c'est qu'on a un long texte en anglais, une forme de... C'est difficile de savoir, c'est ce que c'est une lettre qu'elle adresse à quelqu'un, ou est-ce que c'est... En tout cas, elle s'adresse à quelqu'un, mais on a plus l'impression qu'elle fait une sorte de bilan pour elle-même. On a du mal à savoir qui est cette personne, mais ils ont l'air d'être assez intimes. Et voilà, c'est une longue réflexion sur qu'est-ce qu'on aime les uns chez les autres. Et puis, c'est aussi entremêlé avec son rapport au travail, à l'art. Et qu'est-ce que c'est de faire quelque chose qu'on aime, et puis qu'est-ce que c'est que de travailler pour vivre et tout ça, et c'est assez beau. Et dans ce côté très intime est aussi renforcé par le fait qu'on a donc en face du texte chaque fois une série d'illustrations, donc il y a 6 pages illustrées qui montrent un intérieur. Donc c'est voilà, il y a un côté très intime. C'est en trame, donc c'est très très beau. C'est pas si éloigné du travail d'Aurélien dont on parlait tout à l'heure, puisqu'on a un choix très réduit de couleurs. C'est assez géométrique. Et voilà, elle arrive, c'est des dessins hyper simples, c'est vraiment de la trame et quelques formes, et elle arrive à faire, à vraiment communiquer l'atmosphère intime qu'il y a dans le texte. Enfin, il y a vraiment une forme hyper complète entre le texte et l'image. Voilà. En plus, des fois, c'est vrai, j'avoue, je suis parfois un peu agacée par les prix exorbitants de certains boulots, même si on sait que faire un fanzine, ça demande des heures et des heures de boulot et tout ça, mais c'est vrai que c'est difficile parfois de prendre tout ce qui nous plaît, parce que parfois c'est 10 euros, 15 euros, parfois c'est même 40 euros pour certains objets hyper chouettes. Et là, voilà, 5 euros, et enfin voilà, ça fait partie des choses qui comptent, puisqu'on sait que voilà, les gens qui viennent à Culture Maison n'ont pas forcément des liasses de dollars dans les poches. Et donc voilà, il y a quelque chose de voilà, j'ai trouvé que c'était généreux dans tous les sens du terme. Et donc je trouve voilà, je regarderai de plus près la suite de leur travail, et puis voilà, ils sont tout frais arrivés à Bruxelles, donc j'espère que ça va bien se passer pour eux. Et puis je vais parler de Phobia, puisque c'était le choix de Thalie, mais malheureusement elle ne peut pas nous rejoindre pour en parler. Phobia est un travail donc un fanzine en photocopie. C'est, d'après ce que j'ai compris, un collectif liégeois, parce que donc, évidemment, l'intérêt, c'est aussi que, comme dit Stéphane, on peut causer et poser quelques questions aux gens qui sont derrière les livres, et je crois qu'ils sont toujours assez contents de parler, parce que l'échange n'est pas si riche qu'on le croit. Il y a des gens qui sont très timides, qui, des fois, osent même pas ouvrir les livres. Donc, quelqu'un qui ouvre un livre et qui pose des questions, je crois que ça fait plaisir. Et donc on a voilà, donc c'est plutôt un couple qui décide de faire un fanzine un peu chouette, et qui décide de contacter 5 autres auteurs pour les inviter à faire voilà quelque chose ensemble. Donc c'est un petit fanzine un peu plus petit qu'un A4. Et donc ils ont posé une thématique, Phobia. D'ailleurs ça doit un peu courir sur tout ce qu'ils font, parce que toutes leurs productions sont sous le nom de Phobia Press. Et donc là, Phobia, c'est 7 récits autour de la peur. Voilà, alors c'est assez élégant, on a même des petites pages en calque, donc c'est très chouette. C'est assez divers, comme dit Stéphane, dans un collectif comme ça, bah, tout n'est pas forcément hyper abouti et hyper chouette, puis il y en a pour tous les goûts. Il y a des choses qui font un peu penser à du Aisha Franz, comme ça. J'ai un coup de cœur particulier pour les récits de Tamara, de Mathilde Van Gelu, je dis probablement assez mal son nom, et de Carotène, qui sont voilà, des petits récits qui marchent hyper bien, qui sont aboutis, le dessin est chouette, la mise en page est belle. Et c'est vraiment un chouette, très chouette fanzine. Ça me fait penser à un fanzine de Noémie Marsili, mais malheureusement, je pense qu'il n'est plus trouvable, mais elle a fait un Ace Bar chez Norest. Fait de collage en noir et blanc aussi, tout au crayon comme ça, avec du calque, et on retrouve un petit peu de cette élégance et ce dessin assez vivant et tout ça. Donc c'est vrai que c'est un fanzine qui est très très chouette.
Dans le même ordre d'idée, il y a aussi The Hound, qui est un autre petit collectif qui est assez chouette et qu'on ne peut trouver quasiment que sur Festival.
Voilà, je pense que voilà, on arrive à la fin de notre émission. On va recéder les locaux à Radio Alma, qui va voilà, accueillir une nouvelle émission. On va rendre l'antenne à Radio Campus. Donc, on remercie encore Gérald à la technique.
Merci.
Et puis, Frédéric, on remercie encore Radio Alma. Et voilà, c'est la fin de la carte blanche sur Radio Grand Papier. Bonsoir.
Merci, Jean-François.
Merci à vous. Ciao, ciao.
Ciao. Thank you.
Thank you.